Il est 7h.
Moi, j'en ai un peu assez qu'on dise la SNCF, c'est cher. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ma direction voyageurs de travailler sur une évolution de la tarification pour faire en sorte qu'effectivement, au dernier moment, on puisse encore trouver des petits prix quand on veut acheter un billet de train.
Le patron de la SNCF le disait en novembre dernier sur Europe 1. Il passe aujourd'hui à l'action. La compagnie présente cet après-midi une nouvelle offre tarifaire avec des petits prix même en dernière minute. Du côté de Bruxelles, on va parler gros sous. Aujourd'hui, discussion avec les banques pour les premiers emprunts dans le cadre du plan de relance des fonds sous haute surveillance. Vous l'entendrez. Et puis on reste sur la scène européenne, juste après ce journal. Votre éclairage éco, Nicolas Barré.
Parce qu'avec ces premiers emprunts, c'est un tournant dans la gestion de la crise et dans l'intégration des pays de l'Union européenne.
À suivre aussi la bataille pour les régionales en centre-Val de Loire, où le Rassemblement national s'affiche aux avant-postes. Et la bataille de Gaël Monfils pour retrouver son niveau. Il entre en lice aujourd'hui à Roland-Garros. Et puis tiens, Roland-Garros toujours, l'édito sport de Virginie Fulpin à 7h20.
Et derrière la maladresse, la détresse, Naomi Osaka déclare forfait pour la suite de Roland-Garros avec en filigrane des questions importantes sur la santé mentale des joueurs et des joueuses.
Mais enfin, juste avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tous ses prédécesseurs s'y sont attelés sans succès. Mais le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, espère aujourd'hui boucler le chantier de la simplification tarifaire. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour à tous.
Vous êtes le spécialiste transport d'Europe 1. De nouvelles offres doivent être présentées cet après-midi, avec notamment cette promesse, faire en sorte que les voyageurs puissent trouver de petits prix, quelle que soit la date à laquelle ils réservent.
Oui, c'est l'équation que les équipes de la SNCF essaient de résoudre depuis plus d'un an, puisque jusqu'ici, la politique tarifaire de la compagnie, c'est celle du yield management. Pour faire simple, plus vous achetez votre billet tôt, plus vous aurez une chance d'avoir un petit prix. Mais ce billet pas cher, vous ne le trouverez presque jamais en période de pointe ou lors des fêtes de fin d'année. L'idée, c'est bien de remplir tous les trains de la semaine grâce à ces petits prix. Alors, ils existent vraiment, hein. La SNCF annonce une baisse de 7% de ses tarifs entre 2012 et 2019. Bien aidé, c'est vrai, par l'arrivée des low-cost Ouigo, mais aussi par une politique de promotion et de cartes de fidélité pas suffisamment bien comprise. Voilà donc l'éclaircissement attendu cet après-midi par 17 millions de clients, fréquentation avant la crise sanitaire. L'objectif affiché par le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, c'est doubler le nombre de voyageurs en 10 ans, en faisant en sorte que les automobilistes choisissent plus souvent le train, en surfant sur la volonté de se déplacer de manière écologique, mais aussi en se préparant à la concurrence. Dès la fin de l'année, vous pourrez faire un Paris-Lyon dans un train de Trenitalia. La SNCF doit donc se renouveler, première étape dans quelques heures.
Voilà, et vous suivrez ça pour nous, Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
Elle est désormais ouverte à tous les adultes dès 18 ans. Pour autant, la campagne de vaccination se heurte toujours à plusieurs défis.
Oui, à moyen terme, la question des vacances cet été, comment maintenir un rythme soutenu d'injection? Le sujet sera sur la table demain au Conseil de défense sanitaire. Autre défi, dès à présent, la réticence de certains face au vaccin, notamment parmi les plus précaires.
Illustration ce matin en Seine-Saint-Denis, département qui affiche un taux de 23% de primo-vaccinés. C'est 10 points de moins que la moyenne nationale. Et cela pour plusieurs raisons. Reportage ce matin à Romainville de Zoé Pallier pour Europe 1.
La fenêtre de son HLM donne sur le centre de vaccination municipal. Pourtant, Maddy n'y va pas.
Je ne suis pas confiant. Ça va faire quoi après? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai peur de faire ça.
C'est pour rassurer ces populations mal informées, éloignées du système de santé, que le département a mis en place un bus de vaccination itinérant. Étape aujourd'hui devant les locaux du Secours populaire de Romainville.
Derrière le camion, pour mettre ça. Au début, comme on ne sait pas il y a quoi de temps et temps, ça fait peur. Mais après, on a changé d'avis. Là, franchement, c'est bien.
Voilà, c'est fini.
Soraya vient finalement de recevoir sa première dose. Comme Sonia, elle n'était pas sûre d'y avoir droit avec juste un titre de séjour.
Et si ils ont dit, je suis sûre et certain, sans papier, on peut faire le vaccin. Ça, c'est bien pour moi. Une information de plus.
Créneau réservé par téléphone. De quoi lever un autre frein à la prise de rendez-vous, explique Nadine Godineau, en charge du pôle santé au Secours populaire.
Dans le département du 93, peu de gens ont accès à un simple ordinateur avec une connexion.
Pour rattraper le retard en matière de vaccination, le département va multiplier les équipes mobiles. Objectif, vacciner chaque semaine au pied des tours 1200 nouvelles personnes.
Reportage de Zoé Pallier pour Europe 1.
Cette fois, c'est officiellement parti pour le plan de relance européen. 750 milliards d'euros au total, avec des premiers emprunts dès ce mois-ci.
Et Bruxelles compte bien garder un œil sur la manière dont cet argent est dépensé. Isabelle Horry, vous êtes notre spécialiste des affaires européennes. Cette surveillance financière, elle passera par le parquet européen qui entre en fonction aujourd'hui avec des représentants dans chaque pays.
Oui, en France, par exemple, 5 postes ont été créés. Les substituts du procureur européen sont des Français. Ils vont requérir devant les tribunaux français. Mais la grande différence, c'est qu'ils ne dépendront pas des parquets français. Ils dépendront du bureau du procureur européen installé à Luxembourg. Ils vont enquêter sur des détournements des fonds européens, mais aussi sur la fraude à la TVA transfrontalière, des milliards d'euros qui disparaissent dans la nature chaque année. À l'échelle de l'Union, leur chef est une femme, la Roumaine Laura Kovetchi, une figure de la lutte anticorruption dans son pays.
Notre rôle, c'est d'être un gardien qui protège l'argent européen et qui enquête sur les fraudes. Le parquet européen doit devenir une institution forte et indépendante qui protège l'état de droit. C'est la plus grande avancée judiciaire en Europe depuis 20 ans.
22 pays seulement sur 27 participent au projet, c'est sa limite. La Hongrie ou la Pologne, par exemple, n'avaient pas très envie de désigner des procureurs 100% indépendants. À noter qu'en France, cette nouveauté va être regardée de près car c'est la première fois que des procureurs ne sont pas sous l'autorité du ministère de la Justice.
La précision signée Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
7h06, le bonneteau des régionales en centre-Val de Loire. À gauche, depuis plus de 20 ans, la région pourrait cette année changer de camp.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1. On va faire le tour avec vous des forces en présence dans cette région très disputée, avec une victoire du Rassemblement national que désormais certains sondages n'excluent plus.
Oui, il peut l'emporter en quadrangulaire avec 30% des voix. Pourtant, le nom du candidat ne vous dira rien. Alexander Nikolić, preuve que l'étiquette RN suffit. Son camping-car de la ruralité qui sillonne les villages affiche son portrait et celui de Marine Le Pen.
Ça permet d'être identifié plus facilement. Il y a une dynamique du Rassemblement national qui touche la région centre. Et je peux vous assurer qu'on sera un très bon test si on remporte la région centre et on prouvera qu'on est capable de diriger des exécutifs. Et c'est peut-être le petit plus qui nous permettra de gagner la présidentielle.
Pour contrer le RN, le président sortant PS François Bonneau, donné à 19% au premier tour, a fait venir l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Ce n'est pas les solutions face à l'insécurité qu'il cherche. C'est la sécurité qu'il désire pour pouvoir politiquement prospérer.
Problème, François Bonneau a un autre adversaire, le ministre modem des relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Sa double casquette agace le socialiste.
On n'a pas besoin d'un ministre en fin d'exercice, on a besoin d'un président de région. On n'a pas besoin de quelqu'un qui considère que la présidence de région, c'est un lot de consolation.
Mais La République En Marche, Aurélie, elle a réellement une chance de s'imposer?
Oui, il est un des rares candidats macronistes à pouvoir rêver de remporter une région. Donné à 21% au premier tour, il lui faudrait des alliés au second pour gagner. Question taboue pour Marc Fesneau.
Elle se posera, pardon de le dire comme ça, le soir du premier tour.
Avec peut-être un Rassemblement national en tête.
Mais c'est bien l'équation qui sera posée à tout le monde. Et donc à ce moment-là, il faudra réfléchir à la manière qu'on a de répondre à cette équation-là.
La réponse pourrait être une alliance avec Nicolas Forestier, estimée à 16%. Mais pour le candidat LR, c'est aussi tabou.
Nous verrons bien le soir du premier tour. Je trace ma route. Comme on dit souvent, dans le Berry, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses.
Bref, rendez-vous le 20 juin pour voir comment s'organise ou pas le barrage au RN.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et dans cette région Centre-Val de Loire, également en lice, Charles Fournier pour les Verts et les Insoumis, le binôme Jérémy Clément, Christelle de Crémier pour Démocratie écologique et Farida Megdoud pour Lutte ouvrière.
Et en région, justement, c'est un sujet qui divise, voire qui irrite l'installation d'éoliennes. Stéphane Bern dénonçait hier dans le Figaro une atteinte au paysage sans intérêt écologique. Les éoliennes ne servent à rien, disait il y a quelques minutes Fabien Bouglé, lui-même ancien expert éolien.
Autant dire que quand on a un tantinet lamé colon, on se retrouve un peu perdu devant ces attaques. Alors on va tenter d'y voir plus clair. Avec vous, Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors d'abord, quand on s'intéresse aux arguments des anti-éoliens, est-ce que, comme ils le disent, elles ne fonctionnent qu'un quart du temps?
Alors les éoliennes fonctionnent effectivement par intermittence en fonction du vent. Le parc français a une puissance moyenne d'environ 25% sur l'année pour les éoliennes terrestres, 40% pour les éoliennes en mer. Donc oui, il y a toujours besoin de centrales pilotables, donc nucléaires, hydroélectriques ou fossiles, pour compenser l'intermittence. Mais attention, il ne faut pas en déduire que développer l'énergie éolienne augmente les émissions de gaz à effet de serre, parce que ça c'est faux. Quand on a besoin d'électricité pour le réseau en France, on fait d'abord appel aux sources renouvelables, donc éolien, solaire, hydraulique en priorité, ensuite le nucléaire, ensuite le gaz et enfin le charbon. Donc si on installe plus d'éoliennes, on utilise mathématiquement moins les centrales à charbon et à gaz.
Alors un autre argument, l'utilisation de métaux rares non recyclables dans la fabrication des éoliennes, qu'en est-il vraiment ?
Alors, voici la réponse de Maxence Cordiez, ingénieur dans le secteur de l'énergie, qui reconnaît qu'il va falloir économiser certains matériaux.
Il y a effectivement des questions sur certaines matières utilisées par les éoliennes, notamment le cuivre, qui est un métal extrêmement utilisé et pour lesquels la disponibilité dans les prochaines décennies pose question.
Voilà pourquoi il va aussi falloir diminuer notre consommation d'énergie, parce que les énergies renouvelables seront moins pratiques pour alimenter le réseau.
Et tout à l'heure, c'était à 6h40 avec Sébastien Krebs, Fabien Bouglé dénonçait une destruction de la biodiversité et des déchiquetages d'oiseaux. C'est prouvé, ça ?
Effectivement, c'est assez variable selon les parcs, mais en moyenne, une éolienne tuerait chaque année entre 0,3 et 18 oiseaux, selon une étude de la Ligue de protection des oiseaux. À titre de comparaison, c'est moins que les oiseaux tués par les chats.
Virginie Salmen, notre spécialiste environnement à la rédaction d'Europe 1.
Après la qualification facile de Roger Federer hier, l'entrée en lice aujourd'hui de deux autres têtes d'affiche à Roland-Garros, Rafael Nadal et Novak Djokovic. On suivra aussi Gaël Monfils en difficulté sur les cours de depuis le début de l'année, il affrontera l'Espagnol Albert Ramos Vignolas.
Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h11. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Alors c'est un des grands sujets de discussion autour de la pandémie, de la maladie et de ses symptômes. Un vrai sujet mystérieux, la perte du goût et de l'odorat. Les recherches de l'Institut Pasteur avancent et je reçois ce matin le neurobiologiste Gabriel Lépouzé, spécialiste de la perception sensorielle et de l'odorat en particulier. Comment ça marche? Qu'est-ce qui coince? On a besoin de comprendre. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré, juste avant le regard international de Vincent Hervouet.
Oui, la NSA américaine utilisait le Danemark pour espionner les responsables européens. L'Amérique écoute tout le monde, mais elle n'entend rien à l'Europe et n'écoute que son intérêt.
Bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1. L'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le quoi qu'il en coûte version européenne arrive. L'Europe s'apprête à lancer de grands emprunts pour financer la relance post-Covid.
Eh bien, c'est le jour J. En effet, la Commission réunit aujourd'hui même les grandes banques internationales pour lancer son premier grand emprunt. Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, nous l'annonce ce matin. Premier emprunt d'environ 10 milliards sera lancé ce mois-ci et d'autres vont suivre, une centaine de milliards d'euros d'ici la fin de l'année. C'est le début concret de la mise en œuvre du plan de relance de 750 milliards d'euros décidé par les 27.
L'Europe aura mis 10 mois à lancer ce plan.
Oui, alors c'est à la fois long et pas long. 10 mois, c'est évidemment long pour ce qui est censé être un plan répondant à une situation d'urgence. La preuve, c'est que l'argent va arriver alors que nous sommes déjà sur la voie du rebond. Mais ce n'est pas si long quand on songe à deux choses. D'abord, il fallait convaincre les parlements des 27 États membres, c'est jamais simple. Et puis deux, surtout, il s'agit, qu'on le veuille ou non, d'un saut quantique pour l'Union européenne, puisque pour la première fois de son histoire, aux grandes dames des Allemands et des Néerlandais qui se sont fait tordre le bras, l'Europe va devenir un petit peu française ou italienne, je veux dire qu'elle va s'endetter, elle va émettre de la dette commune.
Comme un État.
Exactement, et c'est le point le plus symbolique et disons le plus sensible. Une dette commune, ça n'est pas rien, ça signifie que certains vont payer pour d'autres. Contrairement, une partie de l'argent de la relance qui ira par exemple à l'Italie sera remboursée par les Allemands. Il va y avoir des transferts de richesses, comme à l'intérieur d'un État, quand le Trésor français emprunte pour financer une infrastructure en Corrèze, tous les Français remboursent. Avec ce mécanisme d'emprunt total nouveau, l'Europe crée en quelque sorte un début de trésor européen commun. La crise du Covid aura eu cette conséquence de faire franchir un pas à l'intégration des États européens. Et comme souvent en Europe, la politique avance dans les crises et par l'économie.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h15. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Scandale au Danemark, la NSA américaine utilisait les services danois pour espionner les dirigeants européens. Emmanuel Macron et Angela Merkel réclament des explications.
Oui, à la conférence de presse qui a clôturé le séminaire franco-allemand, le président et la chancelière n'ont pas surjoué la grande scène de l'indignation. Ils ne se sont pas roulés par terre en se découvrant trahis par un ami avec le concours d'un voisin. Ils ont pris l'air grave pour déplorer des pratiques inacceptables. C'était un numéro obligé. Mais quand même, quelle tartufferie. D'abord, il faut se flatter d'être écouté. Cette vérité de radio vaut aussi pour les États, ça prouve qu'ils comptent encore. Ensuite, il n'est pas interdit d'écouter aux portes. Et tout ce qui n'est pas interdit est même recommandé par la raison d'État. Seules les valises diplomatiques sont sacrées, protégées par le droit international. Enfin, tout le monde écoute tout le monde. On se scandalise quand ce sont les Chinois et les Russes. On râle quand les Américains s'en servent pour rafler des contrats. On se méfie de tous les autres, mais nous ne sommes pas les derniers. La différence, c'est que la France n'avoue jamais. Sauf la ministre Parly, Florence Parly, qui avait répondu à la question faussement naïve d'un reporter de Quotidien. Cela ne vous surprendra pas.
L'affaire Snowden a révélé l'espionnage de la NSA.
Oui, il a balancé une bibliothèque entière de documents classifiés qui montraient l'ampleur du phénomène. L'état profond est odieux et il est sans complexe. Régulièrement, l'administration américaine déclassifie ses archives. Et grâce à Snowden, on a mesuré le changement d'échelle avec le numérique. Le modèle américain de sécurité repose sur la suprématie technologique. Elle assure leur domination, elle est vitale, d'où leur angoisse de se faire doubler par les Chinois. C'est le ressort de la bataille mondiale autour de la 5G.
Il n'y a aucun moyen de se protéger.
Quand le président appelle son ministre des Affaires étrangères en déplacement, son téléphone est vraiment protégé. Le résultat, c'est plus fragile. Il paraît même que la sécurité des communications intergouvernementales est très vulnérable. Edward Snowden prétend qu'il faut utiliser Signal, un coup de pub, et que les autres messageries cryptées sont moins fiables. Il faut se féliciter que les Américains écoutent. Sans leurs grandes oreilles, Barkhane serait aveugle et sourde dans l'immensité du Sahel. Ce n'est pas que les Américains écoutent le problème, c'est que sur un certain nombre de sujets, ils n'y entendent rien et qu'ils n'écoutent que leur intérêt.
Vincent Herouette, le regard international, il est 7h17 sur Europe 1. Dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin. Retour à Roland-Garros, quelques minutes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Naomi Osaka, forfait pour la suite de Roland-Garros. La japonaise préfère se retirer carrément après avoir d'abord choisi, on en a parlé, de ne pas assister aux conférences de presse. Elle évoque une dépression. Pour vous, Virginie, ce changement de ton de la joueuse doit nous pousser à l'écouter.
Mais Naomi Osaka ne va pas bien, elle le dit. Elle souffre d'épisodes dépressifs réguliers depuis 2018 et sa première victoire à l'US Open. C'était pas facile de le comprendre la semaine dernière quand la japonaise a laconiquement annoncé qu'elle ne répondrait pas aux questions des journalistes. Oui, elle évoquait la santé mentale, mais elle parlait aussi de son ras-le-bol des questions inutiles. D'ailleurs, elle s'est retrouvée bien seule dans son combat parmi les joueurs. Et même quand le directeur de Roland-Garros a essayé de lui parler, elle a préféré tourner la tête. Tout ça paraissait très agressif et montrait une volonté de maîtriser entièrement sa communication toute seule. Il y a une part de ça, mais le texte qu'elle a publié hier dévoile bien autre chose. Naomi Osaka ne va pas bien. On le comprend mieux quand les mots sont dits ou écrits qu'en s'enfermant dans un silence qui peut être jugé agressif. La joueuse s'est trompée de méthode, d'accord, pas de problème, ça peut arriver. Maintenant, écoutons ce qu'elle a vraiment à dire.
Elle met en lumière la question de la santé mentale des joueurs.
Mais Naomi Osaka met le doigt sur quelque chose de beaucoup plus profond que les simples conférences de presse. Le mal-être que peuvent ressentir les joueuses et les joueurs jusqu'à la dépression, ça c'est le fond du problème. Et la japonaise a raison d'attirer notre attention là-dessus. Naomi Osaka n'est pas seule dans ce cas, mais c'est un problème que notre société entière choisit souvent de taire, parce qu'on n'a pas envie de voir les failles mentales des sportifs. Ça ne correspond pas à l'image de gladiateurs insubmersibles qu'on veut les voir endosser. Or, on parle de jeunes femmes et de jeunes hommes, parfois à peine sortis de l'adolescence et projetés sous les projecteurs, justement. Naomi Osaka n'avait que 20 ans quand elle a gagné son premier titre du Grand Chelem. Et d'un seul coup, elle s'est retrouvée soumise à de multiples sollicitations, médiatiques, oui, mais aussi de la part des sponsors et de tout le monde du tennis. Ça peut être très difficile à gérer. Alors, ils se forcent. Certains passent le cap sans problème, mais d'autres ont plus de mal. Et ça sert à rien de balayer tout ça d'un revers de la main en disant qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ça change quoi ? Naomi Osaka a été très maladroite au départ. Oui, ça arrive, on ne va pas y passer la quinzaine. Mais ce qui est important, c'est le problème plus large qu'elle soulève. Et là, ça me semble essentiel que le monde du tennis se penche vraiment sur cette question de la santé mentale.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. Du côté de Roland-Garros et de cette polémique Naomi Osaka qui connaît ce nouveau développement, chacun se fera son avis évidemment. Merci Virginie, il est 7h23 sur Europe 1, l'heure de retrouver Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourquoi quand on parle de mensonges, de travestir la vérité, on utilise une expression aussi musicale que sympathique, c'est du pipeau.
Ah oui, jouer du pipeau, faire du pipeau, ça a un rapport avec l'instrument qui sert à appâter les oiseaux. On fait croire au volatile que c'est un autre oiseau, on lui ment, il arrive et hop, on le capture.
Oh merci hein Mathieu, vous n'avez qu'à faire ma chronique. Pendant ce temps-là, je vais chercher des questions pour votre invité de 7h40. Oui, mais c'est exactement ça l'origine de cette expression. Dès le XIIIe siècle, les chasseurs utilisaient des petites flûtes pour capturer des oiseaux. Le pipeau, qui avait 6 trous, alors j'ai compté, était fait de bois et de roseaux. Il faisait venir les oiseaux, donnant une occasion de les attraper. Il y a une autre expression d'ailleurs sur le mensonge et les oiseaux. le miroir aux alouettes. Pour attraper les alouettes que l'on plumait durant l'après-guerre, on les éblouissait avec des miroirs pour les effrayer et les faire se diriger vers des filets. Le miroir aux alouettes est une chose séduisante, mais trompeuse. Mais revenons à nos pipeaux. Pipeau vient de piper, qui signifie, croyez-moi sur parole, pousser un petit cri. D'ailleurs, à la place de ne pas parler, on dit « il n'a pas pipé,
mou ». Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, les expressions. Chez nos amis québécois, raconter des pipes, c'est raconter des craques, des bobards, des contre-vérités. Louis-Ferdinand Céline, dans son voyage au bout de la nuit, disait « mentir comme un soutien-gorge ». Bon, il a dû avoir quelques déceptions. Allez, quittons-nous avec Sacha Guitry, qui lui disait « l'un des mensonges les plus intéressants ». Et celui qui consiste à faire croire à quelqu'un qui vous ment qu'on le croit. C'est vrai que c'était un plaisir de gourmet.
Oui, j'apprécie toujours la chute avec vous, Stéphane Bern. On vous retrouve à 16h, 18h, c'est historiquement vôtre.
Oui, on réunit le navigateur Jacques Cartier, Joshua Slocum, le premier à avoir fait le tour du monde en solitaire à la voile pendant 3 longues années et sans même savoir nager, et le Barry White québécois Garou. Alors vous me direz, leur point commun.
Leur point commun.
Ils ont sorti la grand voile et glissé sous le vent.
Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers.
Quand on pourra y retourner sans masque, en toute liberté, je vous propose une soirée karaoké, ah Stéphane oui, Bern. Je pense que Virginie, non, on peut être bien avec Stéphane Bern oui. dans un karaoké.
Ouais, alors moi, ce sera du pipeau, je ferai du playback. Hein.
17h25 sur Europe 1, tout de suite pour la météo. À 7h28, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Et les orages, comme aurait dit notre ami Stéphane Bern, ils font une entrée en fanfare, ils sont là, ils seront là cet après-midi. Ils vont arriver d'abord assez timidement, Aquitaine, Béarn, puis un peu plus passionnément, Limousin, Auvergne, Midi-Pyrénées, les Alpes aussi seront touchées, le Poitou-Charentes, Elbe Atlantique, là, on sera plutôt une tendance orageuse. Mais les orages arrivent et ils ne vont pas nous lâcher toute la semaine. Ça nous embête, parce que qui dit orage, dit aussi parfois grêle, avec les dégâts qui sont afférents. Donc on ne va pas penser au pire, mais enfin on est là sur une zone orageuse qui arrive par le sud et qui demain va se propager vers le nord. Demain soir elle arrivera probablement en Île-de-France, en Normandie, etc. Bon, alors n'en sommes pas là, aujourd'hui c'est du grand beau temps pour tout le monde, sauf les régions que j'ai citées dans le sud-ouest, où là les orages vont se déployer au fil des heures. Et puis nous aurons sur l'ensemble de la France des températures fort agréables, 24 degrés en Bretagne, 25 degrés dans le territoire de Belfort, 26 à Marseille, à Caen, en Auvergne, 27 à Lyon, 28 à Bordeaux, 29 à Bourges et à Paris, et 30 degrés dans la vallée de la Loire. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 7h29 sur Europe 1, bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est presque 7h30.
On a testé des desserts, on a testé des techniques. Le vrai baptême du feu, ça va être ce midi à l'attaque.
Et à l'attaque, après plus d'un an sans clientèle, le Palace parisien du Royal Monceau rouvre ses portes aujourd'hui. Dans ce journal, les résultats d'un sondage IFOP pour Europe 1 sur les régionales en Occitanie. Le second tour devrait opposer le Rassemblement National au Parti Socialiste. Le procès Big Malion est le début des auditions des membres de l'UMP. Et puis scandale politique en Finlande autour de la première ministre et de ses petits déjeuners en famille.
Juste après le journal La Touche Âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur. Au programme, la perte d'odorat liée au Covid et la rééducation aussi. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Guillaume Pelletier est député Les Républicains. Il est numéro 2 du parti, mais pour combien de temps encore, c'est la question du jour.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit le président du groupe LR au Sénat, candidat à la présidentielle, Bruno Retailleau. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il était l'un des derniers palaces parisiens encore fermés. Le Royal Monceau va rouvrir ses portes aujourd'hui après 15 mois de fermeture. Les cuisiniers, les concierges, les gouvernantes, tout le monde est prêt. Nicolas Feldman a suivi les tout derniers préparatifs.
Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment éclatez-vous.
Devant le bar, Romain, le directeur de la restauration, passe en revue ses troupes, l'heure des dernières consignes avant la reprise.
J'ai pas perdu la main. On est tous affarés, on attend. Il y en a, ça fait 14 mois qu'ils n'étaient pas revenus à l'hôtel, donc ça fait du bien de voir de l'humain.
Une effervescence que l'on retrouve dans le restaurant. En salle, les pâtissiers dressent les desserts de la carte.
On a notre palais chocolat du Pérou, on a notre dessert à la fraise.
Le chef Quentin Le Chat a rejoint le palace en début d'année.
On a testé des desserts, on a testé des techniques. Le vrai baptême Batailles du Feu, ça va être ce midi à l'attaque.
Mais avec une capacité réduite de moitié, 45 places sur la terrasse, toutes occupées aujourd'hui. La reprise s'annonce en revanche plus compliquée dans les étages. Seuls 10% des chambres sont réservées. Christophe Thomas, directeur du Royal Monceau.
Nous avons beaucoup de clients américains et de clients du Moyen-Orient. Nous pouvons miser peut-être de plus de clientèle européenne. Souvent, les gens ont une tendance à voyager dans des destinations après une crise qu'ils connaissent déjà. Donc, nous pensons que nous aurons notre clientèle internationale très rapidement.
Et sachez que pour vous offrir une chambre dans ce palace, il vous en coûtera pour une nuit entre 850 et 27 000 euros.
Aperçu de la Vite Palace avec Nicolas Feldman. Un peu plus de 2500 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine l'année dernière. C'est le bilan le plus bas enregistré depuis l'après-guerre. Un chiffre à relativiser puisque le trafic routier a énormément diminué à cause de l'épidémie de Covid et des restrictions de circulation.
Nous sommes à 3 semaines du premier tour des élections régionales et départementales. On vous parlait dans le journal de 7h de cette bataille entre le Rassemblement National et la République En Marche dans la région Centre-Val de Loire. Coup de projecteur cette fois sur l'Occitanie.
Et là aussi, le RN est donné vainqueur au premier tour contre le Parti Socialiste de Carole Delga. C'est en tout cas ce que révèle un sondage IFOP pour Europe 1 et La Tribune ce matin. Les précisions de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Le rapport de force électorale en région Occitanie se résume à un duel entre le Rassemblement National et Carole Delga, la sortante socialiste. Avantage au premier tour pour la liste RN de Jean-Paul Garot, 30%, mais c'est un avantage faible. C'est une des rares régions où le RN recule par rapport à 2015. Les autres forces peinent à exister. 13% pour la majorité présidentielle, 14% seulement pour Aurélien Pradier et la droite. Et clairement, la gauche tient le choc. Carole Delga, la sortante qui est créditée d'un bon bilan, peut compter sur des réserves de voix de la France Insoumise et surtout Europe Écologie des Verts en cas de miné à 10%. Ce qui fait que des seconds tours assez nets, en quadrangulaire 37% pour Carole Delga contre 31% et surtout en triangulaire 40%. C'est une région que le PS peut espérer conserver.
Frédéric Dabi de l'IFOP, joint pour Europe 1 par Claudia Bertram. Elle avait été prolongée de 2 mois en raison de la crise sanitaire. La trêve hivernale s'achève aujourd'hui, ce qui signifie le retour des expulsions locatives. Plus de 30 000 foyers français sont menacés.
Deuxième semaine au procès de l'affaire Big Malion et des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 avec le début des auditions des membres de l'UMP.
Et hier, c'est Fabienne Liadze, l'ancienne directrice des ressources du parti, qui a été entendue. Chloé Triomphe.
Fabienne, c'est personne. Fabienne, on s'en fout. Elle n'a pas de poids politique. On peut la charger. Il n'y a pas de problème. C'est ainsi que l'ex-directrice des affaires financières à l'UMP, licenciée après la révélation de l'affaire, résume son sort. Il faut dire qu'à son poste, elle voyait tout passer. Tous les engagements de dépenses, toutes les factures des meetings, des conventions, fictives ou réelles, dont celles qui ont permis de maquiller les comptes et de ventiler les factures pour que l'UMP règle le trop-plein des dépenses imputables à la campagne présidentielle. Pourtant, hier, à la barre sans relâche, elle a nié avoir remarqué quoi que ce soit. Elle signait et validait ce que sa hiérarchie avait accepté à coups de millions. Elle décrit un process dont elle n'était qu'un rouage, dit-elle, et pas un décisionnaire. Pour cela, prière de regarder plus haut dans la hiérarchie, comprend-on, en direction de prévenus assis à ses côtés. Et puis surtout, prière de demander à Jérôme Lavrieux, qui lui avait dit « Fabienne, pour moi, c'est OK les factures d'Events, filiale de Big Malion », insiste-t-elle encore. Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne, sera entendu jeudi.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et puis on va parler de cette polémique en Finlande, où la première ministre Sanna Marin est en train de provoquer un tollé.
Alors qu'elle jouissait jusqu'à présent d'une excellente popularité, elle est pointée du doigt pour avoir financé ses petits déjeuners ainsi que ceux de sa famille avec l'argent public. Et dans ce pays très attaché à la transparence et à l'honnêteté de ses élus, l'affaire se transforme en véritable scandale politique. Diane Berger.
300 euros chaque mois, c'est ce que coûte aux contribuables finlandais les petits déjeuners de Sanna Marin et sa famille. Or, selon la loi, la chef du gouvernement a bien droit à un logement de fonction. Son entretien, le chauffage, la décoration et le personnel sont financés par des fonds publics, mais rien n'est précisé pour les repas qui y sont pris. Vendredi dernier, la police a donc ouvert une enquête concernant ces petits déjeuners. Sur Twitter, la première ministre répond qu'elle est favorable, justement, à une clarification clarification de ce point très précis du droit et elle est prête à prendre en charge elle-même ses repas. Mais ces déclarations ne suffisent pas à calmer la polémique, car ses services refusent de publier les factures détaillées de ses petits déjeuners. Officiellement, pour des raisons de sécurité, le magasin où sa famille se fournit serait identifiable. Mais cette décision passe mal dans un pays très attaché à la transparence en politique.
Et puis un petit mot de tennis à Roland-Garros pour terminer avec l'entrée en lice de Raphaël Nadal aujourd'hui. À suivre côté français, Gaël Monfils, Lucas Pouille, Adrien Manarino et un duel 100% tricolore, Hugo Gaston contre Richard Gasquet.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un candidat à la présidentielle à 8h15, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui propose un pacte de reconstruction pour la France. Alors il s'agirait déjà de ne pas déconstruire la droite entre alliance avec les marcheurs, accointance avec le RN, les Républicains au cœur du débat politique, l'édito de Nicolas Bétou, c'est dans 10 minutes, et puis Bruno Retailleau qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Dans un instant, vous allez tout comprendre à la perte d'odorat, symptôme du Covid bien sûr, avec le neurobiologiste à l'Institut Pasteur, Gabriel Lépouzé. C'est le tête-à-tête Europe Matin. Mais d'abord, La Touche Âme, Bertrand Chameroy, son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, la radio fête ses 100 ans. Marlène Schiappa lui rend un bel hommage.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, l'heure de retrouver Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, à 19 jours des régionales, oh ça file à une vitesse, à 19 jours donc, Marlène Schiappa, candidate sur la liste LREM de Laurent Saint-Martin, a annoncé la mise en place d'une plateforme téléphonique. Ah, ça faisait longtemps. Et je crois qu'il s'agit, oui, il s'agit du 49e numéro de téléphone mis en place par La République En Marche. Pour des gens qui voulaient casser les codes, ils sont quand même très standards.
Oh,
oui, elle est téléphonée celle-ci. Oh, ah, qu'est-ce qui m'arrive ? J'arrive plus à m'arrêter de faire des jeux de mots télécom. Allez, encore une ouverture de numéro et ça fera 50. Au 50e, je crois qu'on vous offre un pins parlant pour marquer le coup. Une plateforme téléphonique donc pour, je cite, les Parisiennes qui souhaitent nous parler. Nom de cette plateforme, Allô Marlène. Oui. Allô Marlène.
Salut, c'est Marlène. Seriez-vous capable de me séduire ? 36 70 04 69.
Non, alors non, ça n'a rien à voir. Ça, c'était la pub du fil de séduction de Marlène dans les années 90, pas Marlène Schiappa, Marlène Moureau, qu'on voyait dans les émissions de Patrick Sébastien. Si quand on vous dit allô Marlène, vous pensez à ça, c'est que vous avez eu une jeunesse compliquée, n'est-ce pas, Mathieu ? Oh, faites pas l'innocent, j'ai mes infos. Si vous croyez que je suis pas au courant pour vos VHS de Sexy Zap, personnellement, quand je lis allô Marlène, je pense plutôt à ça.
Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur.
Ouais, moi, je pense au dîner de con. Chacun ses références. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, Marlène Schiappa fait fort en pondant une idée marketing qui prête à la moquerie. Elle parvient à faire encore parler d'elle. Je suis sûr que c'est volontaire. Ils savent que le nom Allô Marlène va être partagé et commenté sur les réseaux sociaux et peut-être même donner des idées à des intermittents du spectacle qui officient en matinale. Et hop, coup de pub à moindre frais. Ils ont dû prendre des cours avec les publicitaires de Mercurochrome, Le Pansement des Héros ou Comme J'aime. Vous savez, ces pubs qui sont si mauvaises, mais c'est voulu parce qu'après, les gens en parlent pour se moquer, mais ça reste en tête et le message imprime. Après le compte TikTok, les QSR, quartier sans relou, voici donc Allô Marlène. Enfin, je suis peut-être mauvaise langue, hein. Si ça se trouve, loin d'être un plan marketing, c'est simplement un hommage à la radio qui fête ses 100 ans. 21h, 23h, Allô Marlène, votre libre antenne. Vous avez des questions ? Elle a les réponses. Venez discuter sans chichi. Allô Marlène. Bonsoir, vous écoutez Allô Marlène, ou plutôt l'inverse, c'est moi qui vous écoute. Hein. Allô Marlène, votre émission de dialogue entre vous et moi. Allez, on prend tout de suite une question standard. Bonsoir, dites-moi tout.
Oui, allô Marlène, je voulais savoir si on peut se dire féministe et travailler avec Gérald Darmanin.
Ah, je vous entends pas, la connexion est vraiment mauvaise, on va devoir prendre une autre question, quel dommage. On se retrouve tout de suite après la pub, mais d'abord on écoute Gespati, Étienne, c'est Allô Marlène, votre rendez-vous sans chichi.
Pulpeux comme la pêche.
Et bon anniversaire à la radio.
Et bon anniversaire à la radio tout de suite, 7h42, Étienne.
Gespati, il est incroyable. J'aimerais me balader dans votre disque dur un jour, y compris pour ces petites musiques d'ambiance que vous nous trouvez, Bertrand Chameroy, La Touche Âme, tous les matins à 7h40. C'est sur Europe 1. Et puis on vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel, c'est Culture Média évidemment. Il est 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Quel étonnant symptôme que celui de la perte du goût et de l'odorat. Quelles inquiétudes aussi quand ces symptômes durent alors qu'on est guéri. Est-ce qu'on y voit plus clair aujourd'hui sur ce qui se passe dans notre nez, dans notre système nerveux aussi avec cette maladie, le Covid-19 ? Mon invité ce matin, Gabriel Lépouzé, neurobiologiste à l'Institut Pasteur, spécialiste de la perception sensorielle et de l'odorat.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Gabriel Lépouzé.
Bonjour.
Alors c'est un objet de recherche depuis le début de cette crise sanitaire, bien sûr. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui pourquoi on perd l'odorat quand on est atteint du Covid ?
On commence à bien comprendre et la recherche avance vraiment sur ce sujet. On se rend compte que ce virus a un tropisme, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup cibler les cellules des voies respiratoires supérieures et en particulier ceux de la muqueuse olfactive qui se trouve tout en haut de votre cavité nasale, entre vos deux yeux. C'est ce petit organe qui vous permet de sentir et d'appréhender toutes les molécules volatiles de l'environnement.
Alors, j'allais vous poser la question un peu plus tard, c'est quoi sentir ? Parce que, pour le goût, on comprend, on a des capteurs sur la langue. Pour l'ouïe, on fait vibrer un tympan, la vue, le toucher, tout ça, on l'a. C'est quoi sentir ?
Alors sentir, c'est la présence de molécules volatiles dans l'environnement, d'un croissant, d'un morceau de pain, vont s'échapper dans l'air et vont converger par l'inspiration jusqu'à cette muqueuse nasale tout en haut de votre cavité nasale. Et en fait, cette cavité nasale, elle est assez tortuée, donc le flux d'air va être amené là-haut. Et il y a un deuxième chemin pour apporter des molécules volatiles à notre muqueuse olfactive tout là-haut, c'est par la bouche. Ça, les gens parfois le mélangent un petit peu, une expérience qu'ils peuvent faire ce matin simplement. Ils vont se boucher le nez, ils vont mettre un aliment dans leur bouche, ils vont mastiquer. Ils vont fermer la bouche et ensuite ouvrir leur nez. Et quand ils vont ouvrir leur nez, ils vont expirer de l'air. Et l'air qu'il y a dans leur bouche va passer par l'arrière de la bouche et monter dans le nez. Et ils vont sentir ce qu'on appelle la rétro-nasale, cette capacité de sentir les odeurs qui sont présentes dans notre bouche et qui vont donner le goût. Le goût, c'est finalement une dimension aromatique, une dimension donc des odeurs, une dimension gustative, les saveurs, sucrées, salées, acides, amères, umami, et puis toute la texture du croissant de ma tartine de ce matin.
D'où le lien entre les deux. Alors notre spécialiste santé, Victor Delande, nous rassurait ce matin, 90% des malades vont retrouver l'odorat en quelques semaines seulement, mais pour les 10% restants, ça peut durer, et durer de longs mois. Si j'ai bien compris, le virus se nicherait en fait dans des cavités de notre nez, précisément là où ces neurones reconnaissent les odeurs.
Alors ça, c'est une découverte très récente qu'on a pu faire au laboratoire à l'Institut Pasteur, en collaboration avec des équipes d'ORL, pour montrer que chez ces quelques pourcents de personnes qui ont eu une forme d'anosmie longue, ça veut dire plusieurs mois, chez ces personnes-là, on retrouve chez certaines personnes, et encore c'est une sous-population, du virus qui, même s'il n'est plus présent du point de vue test positif, arrive à se nicher, à se cacher un petit peu dans cette muqueuse, et arrive à continuer à endommager, à prolonger les dégâts au niveau
c'est
de la
handicap.
Muqueuse.
Oui, alors pour le coup, on ne sait pas trop encore aujourd'hui s'il se reproduit, si ça nous rend contagieux à nouveau ou pas. Ça, c'est encore en cours de recherche.
Tout à fait. Alors, le système immunitaire a déjà normalement des armes pour le combattre, mais il arrive à se protéger. Mais ça reste peut-être un cas de figure parmi d'autres. L'autre cas de figure, c'est que ce virus, quand il attaque la muqueuse olfactive, on se découvre qu'il n'attaque pas préférentiellement les neurones. Ce n'est pas finalement la cible préférée qu'il a. Sa cible préférée, c'est les cellules qui entourent les neurones olfactifs. Et ce sont des cellules qu'on appelle des cellules de soutien qui vont être importantes pour l'intégrité de la muqueuse, pour son équilibre.
Mais alors, attendez, ça c'est presque rassurant. Vous dites qu'il n'attaque pas les neurones. J'en déduis que le neurone est atteint et que c'est un dommage collatéral.
Exactement.
Et donc c'est pas notre système nerveux qui est atteint par le virus.
Tout à fait. Ce qu'on voit, et de manière générale, dès qu'on a des atteintes un peu neurologiques, psychiatriques dans ces formes de Covid long, on a plutôt ici des conséquences indirectes de l'inflammation aiguë liée au virus, la réaction de notre système immunitaire qui est parfois démesurée, qui peut abîmer notre système nerveux. Et dans le cas de la muqueuse olfactive, donc cette petite muqueuse, on a plutôt une atteinte qui est autour des neurones. Donc toutes les cellules de soutien qui supportent ces neurones, qui vont être abîmées par ce virus. Abîmées, ça veut dire que l'épithélium va se casser un petit peu, il va perdre sa structure. Et du coup, les neurones ne peuvent plus capter l'information aromatique qu'il y a dans l'environnement et n'arrivent plus à transmettre l'information vers le cerveau.
L'information
est coupée, le neurone n'arrive plus à fonctionner. Et c'est quand il va y avoir une régénération du système, et heureusement pour nous, notre système olfactif et notre muqueuse olfactive se régénèrent constamment, cette régénération va ramener des cellules qui ont été endommagées. Et au bout de 10-15 jours, vous allez retrouver l'odorat de manière assez subite, aussi subitement que vous l'avez perdu.
Alors, nous nous sommes tous enorgueillis d'avoir appris un nouveau mot ces derniers mois, c'est l'anosmie, la perte d'odorat. Vous parlez de parosmie. Est-ce que vous pouvez expliquer ces termes et la différence surtout ?
Alors, l'anosmie, donc c'est la perte totale d'odorat, vous ne sentez plus rien du tout. Qu'on sépare un petit peu aussi de ce qu'on appelle l'hyposmie, hypo un peu plus faible, ça veut dire qu'on sent un peu moins bien qu'une personne normale. Et la parosmie, c'est une forme un peu curieuse où on va être capable de sentir des odeurs, peut-être à faible seuil, mais toutes les odeurs vont avoir une odeur un peu désagréable. C'est comme si tout ce que vous mangiez, tout ce que vous sentez, avait une odeur assez similaire, mais plutôt une odeur de solvant. Chez certaines personnes, c'est une odeur de solvant, d'autres personnes, c'est une odeur de vernis, d'autres personnes, c'est une odeur de fumée. Ils ont l'impression que tous sentent à peu près la même chose. Parosmie, ça veut dire qu'on a vraiment une altération de la perception olfactive avec quelque chose qui est un peu nuageux. Tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre l'anosmie et la récupération, la convalescence jusqu'à retrouver son odorat, il y a plusieurs étapes de convalescence, notamment cette étape de parosmie où c'est le moment où le système olfactif va se reconnecter au cerveau. Ouais. Et dans ce phénomène de reconnexion, cette reconnexion n'est pas parfaite et du coup on a un message qui est un peu brouillé et du coup on sent à peu près la même chose partout pour tout le monde.
Alors la bonne nouvelle, c'est que finalement, et là vous êtes rassurant sur ce point-là, ça se répare, même si c'est long, il y a de la rééducation, on peut s'exercer chez soi, travailler son odorat.
C'est extrêmement important. Juste pour donner quelques chiffres, le système olfactif donc, se régénère tout le temps, mais ce temps de régénération, pour qu'une cellule réarrive à redevenir mature, il lui faut 30 jours, mais il lui faut aussi 3 à 6 mois pour se reconnecter au cerveau. L'étape la plus longue dans ce processus de convalescence, c'est de se reconnecter le nez avec le cerveau. 3 à 6 mois, c'est long, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps et la patience de mesurer sa convalescence. Et une des meilleures manières qu'on a trouvées aujourd'hui de stimuler et de renforcer ce retravail de reconnexion du nez avec le cerveau, c'est la stimulation olfactive. Effectivement, quotidiennement, c'est mon meilleur conseil et c'est celui aussi de nombreux ORL dans
le
monde entier.
Ça peut être agréable, écoutez bien. Je disais, ce que vous allez dire peut être agréable.
Il faut stimuler son odorat. En fait, on se découvre que quotidiennement, si on va essayer de stimuler son nez en sentant des odeurs de manière régulière, matin et soir, mais aussi de rester curieux sur tout ce qu'on mange, de diversifier son alimentation, l'idée c'est d'augmenter les chances de stimuler nos neurones. Et pourquoi c'est important? On découvre aujourd'hui, surtout avec des recherches qui sont faites sur des modèles animaux, que plus je stimule ces neurones qui sont en croissance, qui sont en développement, plus je stimule leur stabilité et plus je leur donne les chances de se reconnecter efficacement avec le cerveau.
Stimuler votre odorat, la vanille, allez-y, la menthe, profitez-en, le chocolat, le clou de girofle, je ne sais pas, des choses qui sentent fort.
Il faut prendre des odeurs familières, exactement, c'est la clé, parce que comme ça, on va les reconnaître plus facilement et le plaisir est renouvelé.
Et reconnecter nos neurones, donc nos capteurs olfactifs au cerveau. Gabriel Lépouzet, neurobiologiste à l'Institut Pasteur, c'est absolument passionnant. Et on se pose tous ces questions depuis de longs mois, spécialiste de la perception sensorielle et de l'odorat en particulier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être venu exposer vos résultats, vos recherches de l'Institut Pasteur sur Europe 1 ce matin. Il est 7h50.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'édito politique, Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Guillaume Pelletier a beau être le numéro 2 de son parti, Les Républicains, ses déclarations publiques sont de moins en moins appréciées par sa famille politique.
Il faut dire que Guillaume Pelletier n'est pas adepte de la demi-mesure. Depuis quelque temps, le député du Loir-et-Cher multiplie les prises de parole iconoclastes, le plus souvent avec un sens maîtrisé de la provocation. En fait, l'ambitieux vice-président LR choisit méthodiquement les sujets qui fâchent et il tape dessus.
Alors c'est quoi les sujets qui fâchent ?
Eh bien ceux qui divisent son parti, la ligne économique, la politique sécuritaire, les relations avec le Rassemblement national. C'est simple, il coche toutes les cases. Sur l'économie, ces propositions ont stupéfait une bonne partie de sa famille politique. Tenez, le remplacement de la CSG par une taxe sur les transactions par carte bleue, par exemple. Bon, mais à vrai dire, le parti est tellement perdu sur tous ces sujets de politique économique que tenter un couplet en solo serait à la rigueur pardonnable, ce qui n'est pas le cas pour les autres sujets.
Oui, ceux qui relèvent de la relation avec le Rassemblement national. En fait.
Et par extension avec ceux qui se situent à l'extrême droite de l'échiquier politique, comme Philippe de Villiers ou Robert Ménard. Guillaume Pelletier dit « admirer le premier » et « partager les convictions du second ». Il y a 8 jours, il annonçait qu'en cas de duel au second tour de la prochaine présidentielle, aucune voix ne devrait se porter sur Emmanuel Macron. Une façon de laisser ouvert le choix de voter Le Pen. À 3 semaines des élections régionales, c'est une véritable bombe parce que, bien sûr, ce cas de figure, choisir entre la gauche et le Rassemblement national dans une ou plusieurs régions, ce cas peut se produire. Et c'est ce qui peut arriver de pire aux Républicains. Voir que la digue qu'avait élaborée Jacques Chirac risque de céder dans les urnes après avoir commencé à céder dans les têtes.
Et sur la politique sécuritaire ?
Là, on est très au-delà de ce qu'oserait même proposer Marine Le Pen. Expulsion de tous les fichiers S et surtout rétablissement d'un tribunal d'exception pour condamner et enfermer sur la base de simples soupçons tout individu radicalisé et impossible de faire appel. Bref, une régression totale au regard de nos principes démocratiques.
Et bien sûr, c'est ça qui secoue LR. Comment est-ce que ça peut évoluer, Nicolas ?
Ce qu'on voit très clairement, c'est que le passage du gué entre les Républicains et une Marine Le Pen portée par les sondages touche de plus en plus de figures à droite. Bon, c'est le problème de Christian Jacob. Sur sa gauche, il doit bloquer les œillades d'Emmanuel Macron à quelques-uns de ses grands élus. Et sur sa droite, il doit mettre le holà aux tentations de certains transfuges. Et pour cela, il doit répondre à une question redoutable. Si Guillaume Pelletier ne rentre pas dans le rang, Christian Jacob, numéro 1 des Républicains, aura-t-il la moindre possibilité de ne pas exclure du parti son numéro 2 ? Réponse probable au plus tard. Après les régionales.
Dans 3 semaines. Donc, votre édito politique, c'est tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les jours, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale à 8h15. Tiens, Sonia Mabrouk reçoit Bruno Retailleau, le sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat. Il sera forcément interrogé sur la sortie de Guillaume Pelletier qui a mis le feu aux Républicains. Donc, en proposant, je reprends ce que vous disiez, une justice exceptionnelle sans appel. Bonjour. Bonjour Philippe de Villiers.
Oui, bonjour Monsieur Veillard. Mais Monsieur Bétou a tapé dans le mille. Mauvais timing pour votre invité Bruno Retailleau. Il fait pas bon être invité chez Mme Mabrouk pile le lendemain d'une énorme connerie de son parti. J'espère que Bruno Retailleau va venir avec sa combinaison unifugée, sa lance incendie, parce qu'il va falloir éteindre l'incendie. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des lances et de la grande échelle, comme disait la chanson.
Guillaume Pelletier a aussi déclaré porter les mêmes convictions que Robert Ménard. Une digue s'effondre entre les Républicains et le RN.
Écoutez, moi, ce n'est pas parce que Marine Le Pen dit qu'il fait beau que je vais prétendre qu'il pleut. Mme Le Pen a le courage, il faut le dire, de dire les choses. Et d'ailleurs, écoutez, justement, on parle du loup, là, voilà.
Bonjour, toi. Bonjour, Monsieur Bétou. Bonjour, Jolie Métis. Et j'aimerais dire merci, profiter de l'occasion de dire merci à Monsieur De Villiers, dont j'ai d'ailleurs trouvé le dernier livre formidable.
Écoutez, merci, chère Marine, ça me touche beaucoup. Mais qu'est-ce qui nous arrive, là?
Oh, je ne sais pas, je ne sais plus. Une évidence, peut-être.
Effectivement, il y a un vrai rapprochement. C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours à 8h05. Et ce matin, vous l'avez noté, Sonia Mabrouk reçoit le patron du groupe LR au Sénat, candidat à la présidentielle lui-même, Bruno Retailleau. Très bon réveil à toutes et à tous, 7h58. Laurent Cabrol sur Europe 1, ça va de la météo.
Eh bien, bonjour les orages. Ils arrivent. Ils n'ont pas foutu la paix. Pardonnez-moi. Ils n'ont pas laissé tranquille pendant 48 heures. Et les voici maintenant qui commencent à envahir, pas à l'heure où nous parlons, hein, bien sûr, mais cet après-midi, à envahir tout le sud-ouest de la France, qui sera, disons, ponctué d'orages qui ne font que. Oui, quand même, ils ne font que commencer, mais ils sont quand même assez violents. Et ces orages vont gagner dans la journée de demain, durant la journée de demain, pratiquement, les deux tiers de la France, y compris les régions de la moitié nord. Hein, Paris pourrait être touché. La Bretagne, la Normandie et le centre. En ce qui concerne aujourd'hui, hein, les températures seront très belles et c'est toute la moitié nord qui sera sous le soleil. Température maximale entre 25 et 29 degrés sur deux tiers des villes de France, 29 dans la capitale.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.